7 milliards de voisins, on est ensemble.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins, Samira Ibrahim.
Bonjour les voisines, bonjour les voisins, soyez les bienvenus. Aujourd'hui dans 7 milliards de voisins, un sujet qui va sans doute vous inspirer. Nous parlons d'action, d'engagement. Ils sont enseignants, étudiants, journalistes, artistes, footballeurs ou même sans emploi et ont décidé d'agir et de servir leur communauté. Les initiatives citoyennes ont le vent en poupe, elles se multiplient, elles sont valorisées. Elles sont clairement créées pour pallier un manque. Ces initiatives proposent des solutions concrètes à de nombreux problèmes ou phénomènes de société. Alors quelles sont ces actions de plus en plus médiatisées? Quels domaines touchent-elles? Et surtout, qui sont ces hommes et femmes, ces citoyens altruistes qui s'engagent à bouger les lignes? Les réponses à toutes ces questions dans cette émission avec nos invités. Tout d'abord, Paloma Moritz, journaliste chez Spicy, réalisatrice également et spécialiste des initiatives citoyennes. Vous êtes membre du collectif Mieux Voter. Vous nous expliquerez un petit peu en quoi ça consiste, ce que vous faites, ce que vous proposez. Bonjour et merci d'être avec nous.
Bonjour, merci de m'avoir invitée.
Merci d'être là. Tina Kiefer, qu'on ne présente plus. Vous êtes fondatrice de l'association Toutes à l'école, qui scolarise aujourd'hui plus de 1400 filles défavorisées au Cambodge. Et vous venez de publier une déflagration d'amour aux éditions Robert Laffont, donc qui revient sur votre parcours et votre engagement. Je dois dire que c'est un livre bouleversant. Merci Tina de nous faire le plaisir d'être là.
Merci de me recevoir.
Et puis Alia Ismaël, vous êtes encore jeune étudiante, mais vous avez cofondé une association qui s'appelle Tous Curieux. Merci d'avoir fait le déplacement également et d'être avec nous ce matin.
Merci à vous pour l'invitation.
Et tout à l'heure, nous aurons en ligne depuis New York Mamadou Sakho, qui est footballeur, défenseur de Crystal Palace et international français. Et il nous parlera de son association AMSAC, qui vient en aide aux enfants en difficulté au Sénégal. Vous aussi, les voisins, venez témoigner, parlez-nous des causes que vous défendez, parlez-nous de vos engagements, racontez-nous vos engagements. J'attends vos réactions et messages sur WhatsApp ou au 33 1 84 22 71 71. Bonjour Romain.
C'est un village mondial, donc on est tous des voisins, tous ensemble.
7 milliards de voisins, et entre nous là, entre les voisins. Hein?
7 milliards de voisins, c'est vous qui faites l'émission.
Et pour commencer, un exemple d'initiative citoyenne. Depuis un an, la ville de Gennevilliers, située au nord-ouest de Paris, accueille l'Agrocité, un lieu citoyen dédié à l'agriculture urbaine et à la réduction des déchets. Installée au cœur de la cité des Agnettes, l'Agrocité a pour objectif d'impliquer les habitants et les habitantes dans la vie locale. Notre reporter Inès Edel Garcia les a rencontrés. On écoute.
Alors Yamina, vous habitez dans le quartier?
J'habite là.
Juste au-dessus?
Ouais, je regarde là par ma fenêtre. Quand je me lève le matin, j'ai le plaisir de voir ma petite verdure. Je suis contente. Et puis voir tout le monde par la fenêtre, je suis super contente. Les gens sont gentils ici, ils sont bienveillants. C'est ça la force. Quand vous êtes fatigué ou quand vous êtes malade, vous avez d'autres qui prennent le relais et qui m'aident.
Sur votre parcelle, vous voulez dire?
Oui, bien sûr. La Salem, entre autres. Ça va Salem? T'as trouvé?
Ouais.
Bien? Lui, c'est le vrai spécialiste. C'est lui qui m'aide tout le temps.
Et donc, vous avez votre parcelle ici à l'Agrocité?
Oui, c'est la numéro 4 qui est juste derrière. Je vais vous montrer.
Vous faites pousser quoi, vous?
Moi, j'ai planté des fraises, des tomates, des petits oignons. J'ai deux pieds de poireaux.
Et qu'est-ce qui vous a motivé à vous engager dans ce projet associatif citoyen ici à Gennevilliers?
Déjà, moi, je suis déjà pas mal impliqué dans la ville. Parce que après aussi, on n'a pas les moyens d'avoir une maison de campagne pour récolter des légumes. Entre quatre tours, on peut avoir un espace de jardin. Au moins, on peut faire connaissance avec d'autres personnes. On peut donner nos connaissances et les autres personnes peuvent nous donner encore leurs connaissances. Pour nous ici, c'est convivial, c'est une deuxième famille en fait.
Bonjour, je m'appelle Clarisse, je suis médiatrice écologique et sociale de l'agrocité depuis un an. Alors le projet des architectes, l'atelier d'architecture autogérée est de proposer à des municipalités des lieux de résilience urbaine pour recréer déjà du lien entre les habitants et les sensibiliser autour du thème de l'écologie, du recyclage et réapprendre à faire les choses ensemble pour le bien de tous, pour le bien commun. Donc c'est une approche sur une nouvelle citoyenneté.
Et comment ça fonctionne exactement? Chacun a sa parcelle et cultive ses propres productions ou tout est mis en commun?
Alors aujourd'hui, il y a 260 adhérents en un an. Il y a 60 parcelles individuelles d'un mètre sur 2,50 m. Donc c'est tout petit, mais pour expérimenter quelques légumes à pousser, il y a un véritable attrait. Après, il y a une parcelle collective qui a pour but d'apprendre à cultiver différemment et sans engrais, sans pesticides, et trouver des solutions comme la permaculture pour produire beaucoup sur une petite surface. Donc la production de légumes est faite pour alimenter la cuisine et puis on espère vendre si on produit beaucoup.
Et les bénévoles viennent à quelle fréquence à peu près à l'agrocité pour faire fonctionner ce jardin justement?
Je dirais qu'il y a une trentaine de personnes qui viennent plusieurs fois par semaine et puis d'autres qui viennent une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, ça dépend. Mais ceux qui prennent la responsabilité d'entretenir une parcelle individuelle s'engagent à l'entretenir régulièrement. Si pendant 2 mois, personne n'est venu sur sa parcelle, on récupère la parcelle et on la redistribue à quelqu'un qui souhaite s'en occuper.
Bon, on va aller accueillir les nouveaux bénévoles.
Oui, bien sûr, avec plaisir. Bonjour.
Bonjour.
Voilà, donc Sandrine et Tawes viennent juste d'adhérer et donc ont demandé un peu de renfort pour commencer leur parcelle.
Alors Tawes, vous êtes une nouvelle adhérente aussi de l'agrocité, vous habitez dans le coin?
Tout à fait, donc j'ai adhéré à l'agrocité la semaine dernière. J'habite vraiment à 5 minutes, tout comme Soumaya ou bien Sandrine. Donc ça fait l'occasion effectivement aujourd'hui de se rencontrer, de faire du lien. Et puis j'en ai profité pour prendre un carré de bonheur, un petit carré de jardin que je vais exploiter. Donc je vais faire pousser mes petits légumes, mes petites herbes. Et voilà, c'est aussi ce que je viens rechercher. C'est ce cadre, ce lien, de se dire, moi, j'ai pouvoir récolter ce que j'ai semé et en même temps se dire bah voilà, on va pouvoir échanger, partager, on va pouvoir se donner des recettes, on va pouvoir échanger sur ce qui se passe dans la ville, sur les différentes associations. C'est aussi ce que je viens chercher. Je suis quand même en quête et en recherche d'authenticité. Alors c'est vrai que le jardin, c'est aussi le prétexte pour pouvoir aller vers l'autre. Et c'est ce qui m'intéresse, justement, de pouvoir rencontrer des gens comme Sandrine ou Soumaya aujourd'hui, que je ne connais pas. Et pourtant, ça fait 10 ans que j'habite ici.
C'était un reportage d'Inès Edel Garcia, jardinier pour créer du lien. Paloma Moritz, comment expliquez-vous l'engouement de ces initiatives citoyennes aujourd'hui?
Je pense qu'on est en train de vivre un moment de rupture à tous les niveaux dans notre société et que la prise de conscience en fait sur les crises qu'on traverse actuellement n'ont jamais été aussi fortes et qu'aujourd'hui il suffit pas simplement de dénoncer ce qui ne va pas mais de montrer aussi ce qui peut aller et surtout comment est-ce que ces initiatives-là peuvent passer à échelle. Je pense que c'est très important de prendre en considération que ce ne sont pas des petites choses mignonnes mais que ce sont en fait des initiatives qui proposent un changement de société et donc qui nous laissent avoir des futurs souhaitables et donc c'est à nous aussi de les mettre en avant, de s'en saisir pour ensuite pouvoir justement vivre cette société que nous proposent toutes ces initiatives mises bout à bout.
C'est intéressant ce que vous dites parce que vous-même vous êtes journaliste et vous êtes journaliste engagé. Est-ce que ça va ensemble aujourd'hui? Est-ce que c'est finalement permis?
En tout cas, moi j'ai décidé de prendre cette permission. Je pense que oui, parce que justement, en tant que journaliste, on a une responsabilité et on ne peut plus simplement se contenter de dénoncer des problèmes. Je pense qu'on a aussi besoin de montrer les solutions, de montrer ce qui fonctionne, de montrer aussi justement ces changements de système. Et aussi, moi, j'irais même encore plus loin, mais ça, là, encore une fois, c'est ma vision. Mon idée, c'est vraiment aussi de prendre les sentiments d'indignation ou les prises de conscience qu'on peut créer à travers des des reportages et de les rendre féconds et de pousser à l'action. Donc pour moi, ça doit aller presque encore plus loin que de simplement montrer des solutions, c'est aussi de pousser à l'action et de montrer ce qu'on peut faire concrètement. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui veulent s'engager, mais ils ne savent pas par où commencer, quoi faire. Et donc, bah, si à la fin d'un reportage, on dit, bah voilà, si cette initiative-là vous intéresse, vous pouvez vous engager en allant sur tel lien, en participant à tel crowdfunding, etc. Ça permet en fait de lutter contre ce sentiment d'impuissance qu'on a pour beaucoup aujourd'hui.
Et c'est pour ça qu'on fait cette émission aujourd'hui. Tina Kiefer, vous êtes journaliste vous-même, vous avez donc une carrière qu'on ne présente plus. Est-ce qu'à l'époque, parce que je sais que vous étiez frustrée, vous aviez besoin d'action, est-ce qu'à l'époque c'était plus compliqué d'être journaliste engagé ou militant même?
Mais disons que moi j'ai eu la, enfin c'est pas, l'époque, pas de la chance,
pas très, très longtemps,
mais j'ai toujours fait le choix de travailler dans des journaux plutôt engagés, que ce soit le magazine DS de société que j'avais créé.
Vous avez lancé.
Et absolument, et après Marie-Claire, dont je me suis occupée pendant 10 ans, absolument. Donc c'est vrai que ce sont des journaux dans lesquels on avait des reportages assez forts sur la condition des femmes ou la condition des enfants dans le monde, notamment.
Et
mais moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit mademoiselle. Et moi, ça me fait plaisir d'entendre des personnes aussi jeunes qui ont une telle prise de conscience. Et je pense que ça se développe de plus en plus. C'est qu'il y a un moment, ça ne suffit pas de dénoncer. Il y a même une énorme frustration. Mmh. Et il faut aller plus loin. Et comme il y a une grande perte de confiance dans le politique, et il y a de quoi, on sait bien que si nous, on ne retrousse pas nos manches, je ne parle pas des journalistes, mais nous, les citoyens, si on ne s'y met pas, ça va aller de plus en plus mal, que ce soit au niveau de l'environnement, que ce soit au niveau de la justice, que ce soit à tous les niveaux. Donc là, il y a un moment où il faut vraiment, vraiment s'y mettre, et il faut que les gens aient le... ose, et ça j'aime bien quand elle dit mais moi je prends la permission d'être une journaliste engagée.
Elle prend le pouvoir.
Elle prend le pouvoir, mais il faut, c'est parce vrai. Que sinon, je ne sais pas, on va nous amener.
Eh oui, on ne demande pas le pouvoir, on le prend. Justement, on revient vers vous, Paloma Moritz, racontez-nous un petit peu ce que vous faites. Je sais que vous avez un engagement très fort, notamment par rapport au collectif Mieux Voter. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce que vous faites clairement dans ce... Au sein de ce collectif.
Alors en fait, moi j'ai la chance de travailler pour un média qui s'appelle Spicy, qui est un média de reportage et de documentaire qui m'a laissé une grande liberté, justement dans le fait de traiter toutes ces problématiques-là et d'articuler un peu cette vision du monde et du journalisme que j'ai. Et j'ai commencé en fait à travailler sur la question de comment est-ce qu'on fait de la politique autrement. Et j'ai voulu aller regarder pendant la présidentielle, au moment où on pensait qu'il y avait encore tous les mêmes candidats qui allaient se présenter, qu'on pensait que Sarkozy et Hollande seraient candidats aux présidentielles de 2017, que j'ai voulu aller voir les gens qui faisaient de la politique différemment, et au détour d'un de ces reportages, j'ai découvert un nouveau mode de scrutin qui s'appelle le jugement majoritaire. En fait, c'est un mode de scrutin qui permet, plutôt que de voter seulement pour un candidat, d'évaluer tous les candidats à l'aide de mentions, donc assez bien, passable, excellent, à rejeter, et donc le candidat élu est pas celui qui a la meilleure, pas celui qui a le plus grand nombre de voix, pardon, mais celui qui a la meilleure mention majoritaire. J'ai ensuite décidé en fait d'aller faire un reportage exact que sur le jugement majoritaire au moment des expérimentations qu'il y avait en marge de la présidentielle de 2017. Et en fait, j'en ai discuté avec une amie qui est haut fonctionnaire, qui s'appelle Chloé Ridel, et on a décidé de cofonder toutes les deux ce collectif avec les inventeurs du jugement majoritaire pour permettre en fait à tout le monde de questionner les règles du jeu démocratique avec des nouvelles lunettes. Parce que souvent, en fait, on ne se rend pas compte que l'on vote mal, que nos modes de scrutin, nos méthodes de vote classiques, en fait, permettent pas de refléter la complexité de nos opinions. Et voilà. Et
donc, est-ce que c'est juste créé pour nous aider à mieux choisir les personnalités politiques, ou est-ce que vous parlez également d'autres sujets? Est-ce qu'il y a des thématiques qui sont proposées?
En fait, notre collectif, c'est à la fois de faire connaître ce mode de scrutin, donc de permettre de questionner justement les règles du jeu démocratique, mais aussi d'expérimenter au maximum et de montrer qu'en fait, c'est un mode de scrutin qui peut s'appliquer à tout type de décision collective. Donc on peut l'appliquer à un budget participatif, au référendum, on peut sortir du choix binaire du référendum, qui est un oui-non absolument absurde, et faire des référendums à choix multiples au jugement majoritaire. Et donc, en fait, si on fait un référendum au jugement majoritaire, par exemple, on pourra voir quel est le degré d'adhésion de chacune des propositions qui est soumise au vote dans l'opinion. Et donc, c'est ça qui est très intéressant aussi avec ce mode de scrutin, c'est que ça permet d'avoir une photographie de l'opinion sur des grandes questions, et donc après, de prendre des décisions, que ce soit à l'échelle d'une entreprise, d'une association, d'un parti politique, ou à l'échelle de politique publique, qui sont beaucoup plus en accord, en fait, avec l'électorat.
Parce qu'on fait un pari sur l'intelligence des citoyens. Est-ce qu'il est pris en compte aujourd'hui? Est-ce qu'il est utilisé?
Alors aujourd'hui, en fait, il est utilisé un peu partout à petite échelle. Donc il y a des élections de délégués de classe au chemin majoritaire, des maîtres de conférences qui sont utilisés au chemin majoritaire, des associations qui l'utilisent aussi, des partis politiques.
Mais l'objectif, politiques. J'imagine que ce soit à plus grande échelle.
L'objectif à terme, c'est de faire évoluer nos modes de prise de décision et nos modes de scrutin. Et ça se fait par une loi organique. Et donc avant ça, il faut faire évoluer justement les opinions, l'opinion publique et faire connaître ce mode de scrutin.
Alors vous travaillez également sur des témoignages, des expériences que vous mettez en avant, des initiatives aussi citoyennes. Vous avez créé également une émission, en tout cas à travers Spicy, vous parlez de ces personnalités-là que vous mettez en avant. Vous mettez en avant également leurs actions. Je crois que c'était hashtag... vous avez mis en...
Ma solution pour la
France. Voilà, ma solution pour la France. Ce sont des initiatives portées par des citoyens lambda.
Oui, alors en fait l'idée c'était pendant le grand débat justement de se dire qu'on allait essayer de faire de ce grand débat un vrai débat et de mettre en avant justement des réponses à des grands problèmes de société. Et donc on a pris plein de grands problèmes de société, ça peut être aussi bien les déserts médicaux que la question de l'inscription de la protection de l'environnement dans la Constitution, les questions autour de la laïcité avec coexister, etc. Et à chaque fois l'idée c'était une petite interview de 5 minutes avec une personne qui montre quel est le problème de société auquel elle répond, la solution qu'elle apporte et ensuite comment est-ce qu'on peut passer à échelle, comment est-ce que cette solution-là, elle peut avoir un impact à long terme et toucher beaucoup plus de personnes. Et donc c'est pour ça qu'à chaque fois, en fait, moi j'ai fait très attention à ce que sous chacune des interviews que j'avais réalisées, qu'on a fait avec aussi d'autres journalistes, on avait en fait un petit lien en disant bah voilà, si vous croyez en cette solution, vous pouvez aller plus loin en allant voir ça ou en leur faisant un don ou en organisant vous-même un comité local, etc. Enfin, voilà, l'idée c'était de permettre à chacun de s'en saisir aussi.
Permettre à chacun de s'en saisir, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Beaucoup de gens ont envie de s'investir, de s'engager, mais ils ne savent pas finalement quoi faire. C'est important parce que vous, Tina Kiefer, à travers votre association Toutes à l'école, vous avez embarqué tout le monde. Vous allez nous raconter tout à l'heure votre histoire, ce coup de foudre pour le Cambodge et pour cette petite fille que vous rencontrez. Mais tout de suite, je vous propose d'écouter un message d'un auditeur. Un message WhatsApp, on y va.
Bonjour 7 milliards de voisins, je me présente sous le nom de Djibi Diouf, étudiant en Master 1 en sciences de l'éducation à l'Université virtuelle du Sénégal. Donc je me spécialise en technologie de l'éducation, éducation et développement. Je suis également jeune entrepreneur, là je vais tout simplement vous parler donc, de mon projet communautaire, donc Djembet Djarigno Community Project. Djembet veut dire en Wolof reboiser et Djarigno, donc c'est bénéficier des plantes qu'on a reboisées. Donc avec le projet, on a pu reboiser plus de 300 arbres fruitiers au niveau des concessions ici à Thiès avec l'association Soukalikou de Djahaou et aussi l'association Génération Consciente de Thiès-Non. Donc depuis lors, le projet doit faire environ un an lorsqu'on a commencé l'exécution. Et là, bon, on en est au suivi évaluation et les arbres vraiment sont en train d'évoluer. Merci beaucoup.
C'est pas mal comme initiative. Moi, j'aime bien. Non ?
Bien sûr, c'est utile.
Tina, c'est utile.
Il faudrait la démultiplier là, par... Et ce qui se passe actuellement.
C'est inspirant parce que aujourd'hui, c'est ce qui se passe. C'est que, en entendant ce que vous faites aussi, Paloma, en racontant des histoires comme celle-ci, on a envie de s'engager et nous-mêmes de participer. Alors, vous, Tina, vous êtes une journaliste reconvertie dans l'humanitaire. Donc, une journaliste, encore une fois, très connue, Cosmo, puis vous passez à la télé, Froufrou, enfin, des émissions mythiques que vous lancez le magazine DS, puis vous prenez la tête, vous. Donc vous dirigez Marie-Claire, vous êtes très engagée effectivement puisque il y a déjà du photo reportage, il y a beaucoup de reportages sur les femmes, sur des thématiques importantes. Et puis en décembre 2004, on peut dire que votre vie bascule puisque vous allez au Cambodge, vous découvrez le Cambodge et vous faites connaissance d'une petite fille.
Exactement, je pars au Cambodge avec mon compagnon de l'époque et deux de mes quatre enfants et on va déposer des vêtements dans un orphelinat et là... au bout d'une rangée de petites laitues un peu desséchées, je vois sur un banc une petite fille qui pleure dans ses bras, qui doit avoir à peu près 3 ans. Donc je la prends dans mes bras et cette petite fille se cramponne à moi. Il se trouve que je déjeunais là-bas avec le directeur de l'orphelinat et toute la journée, elle reste complètement comme un koala accroché à moi et en même temps, elle refuse de me regarder. Comme si elle avait été trahie, comme si elle avait peur de donner son regard. Donc je sors de cet orphelinat vraiment bouleversée. Et c'est pour ça que j'ai appelé d'ailleurs ce livre « Une déflagration d'amour » et parce que j'essayais de comprendre ce qui m'était arrivé. Moi qui avais déjà 4 enfants, donc Et pourquoi, quand je suis sortie de cet orphelinat...
Vous pensez qu'à elle.
Mais j'aimais autant cette petite fille que mes autres enfants. Ça a été instantané. Alors
cette
que je n'étais pas dans une démarche d'adoption.
Oui, elle s'appelait Chandara, elle s'appelle Shea aujourd'hui.
Voilà, exactement, oui. Chandara. Donc après, bon, on faisait un trip dans le Cambodge, donc on continue notre voyage, et je ne faisais que penser à cette petite fille. On avait appris sur place qu'elle venait d'un orphelinat qui avait fermé, elle trottait là comme un petit chiot, personne ne savait comment elle s'appelait, enfin c'était vraiment extrêmement poignant. Et finalement, moi j'avais vraiment envie que qu'elle s'en sorte, elle avait l'air extrêmement dépressive, et l'adoption était fermée avec la France, donc c'était impossible de faire quoi que ce soit.
Vous mettez 2 ans hein, avant de
voilà,
pouvoir l'adopter.
Voilà. Alors, par contre, ce que j'arrive à obtenir, parce que, bon, de plus, mais ça a été sa chance, elle avait un problème de maladie assez grave. Et quand je suis rentrée en France, le médecin m'a appelé, il m'a dit, écoute, Tina, l'enfant pour lequel vous avez eu ce coup de cœur, on a appris qu'elle a un problème de santé très, très embêtant. Donc, je pourrais lui obtenir un visa médical de 6 mois. Et si vous venez en mission, vous m'accompagnez, c'est un médecin humanitaire, en mai, je vous donne un certificat de tutelle et puis vous rentrez la faire soigner en France et puis vous vous débrouillez. Voilà.
Et en France, on ne pouvait pas.
Non, parce que comme elle était seule,
elle,
sans ses parents, elle ne pouvait pas être expulsée. Oui. Donc, je l'ai rencontrée en janvier. Au mois de mai, j'étais la chercher. On est restés toutes les deux une semaine dans Phnom Penh. C'était extraordinaire de voir à quelle vitesse cette petite fleur toute desséchée, toute malheureuse, s'est complètement ouverte. Mais c'était absolument incroyable, bouleversant. Et là, il y a eu, je parle beaucoup dans ce livre d'alignement de planète, parce que j'ai eu de cesse de rencontrer des gens qui m'ont emmenée dans cette aventure. Et par exemple, j'ai rencontré une femme, une Cambodgienne d'un certain âge. Et je lui dis, tu sais, moi, franchement, j'aimerais bien créer une école pour les petites filles. Il y avait un vrai problème de prostitution de petites filles très jeunes au Cambodge. Moi, j'étais à Marie-Claire, donc j'étais très sensibilisée sur le problème de l'éducation des filles. Et j'avais quand même quelques leviers pour essayer de faire les choses. Et je lui dis, vraiment, moi, j'ai envie de rentrer avec cette petite et je ferai bien une école au Cambodge. Elle me dit, écoute, si tu fais une école, je viens d'acheter un terrain près de Phnom Penh. Je t'en passe la moitié. Si ça marche, l'association me le rachètera. Donc, du coup, je rentre en France avec la petite dans mes bras, un moment extrêmement intense. Et cette idée d'école, et quand j'arrive à la rédaction de Marie-Claire, conférence de rédaction, je réunis les journalistes, je dis, ben voilà, Marie-Claire, nous allons nous mettre sur une nouvelle cause, qui de toute façon a toujours été un peu une cause, c'était pas nouveau, mais on va défendre l'éducation des filles, on va lancer une grande opération sur l'éducation des filles, on va vendre une rose Marie-Claire.
Et c'est depuis ce jour-là que vous embarquez tous les journalistes.
Voilà, donc j'ai embarqué les journalistes, notamment des journalistes des médias, dont vous à l'époque d'ailleurs.
Oui, j'ai eu cet honneur.
Donc il y avait, voilà, tout à fait, il y avait Claire Chazal, il y avait, c'était tout là, Béatrice Schoenberg.
Elles sont encore toutes mobilisées.
Elles sont encore toutes mobilisées, absolument.
Puisqu'elles rendent visite aujourd'hui à Happy Chandara,
voilà,
qui est
voilà.
Une école qui Anne-Claire a créé
Coudray,
à l'époque.
Par exemple, est très impliquée.
Exactement.
Elle vient au Cambodge. Sophie Davant est venue au Cambodge.
Sandrine Quétier.
Et moi, Sandrine Quétier. Et c'est important parce que comme ça, elle voit le concret. Elle voit comme c'est solide. Parce que c'est quand même délicat, quand on est journaliste, de défendre quelque chose qu'on n'a pas vu. Enfin bref, donc, ça
l'école,
nous permet de
la
payer
première
le premier
année
bâtiment.
A accueilli 100 jeunes filles. Aujourd'hui, elle en accueille 1400. Et aujourd'hui, des jeunes filles sont à l'université.
Voilà, c'est-à-dire que la première promo, 7 novembre 2006, première rentrée des classes avec 94 petites filles, eh bien aujourd'hui, ces petites filles ont passé le bac avant l'été. Et elles nous ont épatées parce que bien que venant des bidonvilles, et justement peut-être parce que venant des bidonvilles, elles ont une telle niaque qu'on a eu 100% d'admission au bac. Alors, on leur donne une instruction extrêmement solide. Elles ont 39 heures de cours par semaine. Vous imaginez, en France, tout le monde lèverait les bras au ciel. Mais elles sont ravies, elles ont un sourire jusque-là, parce qu'elles en veulent. Leur mère est souvent analphabète. Et voilà. Et donc, aujourd'hui, elles sont effectivement à l'université.
C'est incroyable. C'est incroyable le fait d'embarquer tout le monde. J'imagine que vous aussi, hein, à travers vos reportages, quand on les regarde, et je les ai regardés, et je peux vous dire que ça donne envie de rencontrer les gens que vous mettez en avant. C'est pour cela, vous-même, Alia, que vous avez eu envie de vous engager ?
Ça a été très très tôt, je pense. C'était en terminale, pendant la préparation d'un concours facilité à l'accès à Sciences Po Paris, donc là, par la convention éducation prioritaire. On s'est rendu compte avec mon meilleur ami qu'on avait plus ou moins un vide face au bagage culturel qu'on nous demandait dans ces grandes écoles-là.
Donc, votre meilleur ami, Abdelilah Lalaoui, avec qui vous avez cofondé
On a cofondé l'association. Donc en pleine année de terminale, pendant le bac, pendant la préparation du concours Sciences Po. Et finalement, on s'est dit que on allait d'abord embarquer nos petits amis, nos petits potes de classe. Et puis par la suite, ça a pris de l'ampleur. Et aujourd'hui, on a 50aine. Enfin, on s'est vraiment étendu au cours de ces deux dernières années.
Alors, mais pourquoi justement? Il y avait un manque. Vous étiez moins sûr de vous. Vous disiez que vous n'étiez pas assez aidé et qu'il fallait finalement créer ce qui n'existait pas pour aider les autres.
En réalité, moi, ce combat, je pense qu'il a fleuri tout au long de ma scolarité. Donc j'ai eu la chance de côtoyer des établissements privés, en banlieue parisienne, et j'ai vécu une sorte d'autocensure dans ces établissements-là.
On peut dire où c'était? À Saint-Maur, c'est ça? C'était à Saint-Maur.
Voilà,
et vous habitiez Créteil. Voilà. Donc du coup, il y avait quand même un gap entre les deux deux lieux où vous viviez à Créteil avec vos parents et puis le lycée qui était très différent.
C'était
vous
surtout Valenton.
D'être différente, quoi.
C'est au moment de Théâtre de Chardin, c'était surtout Valenton. Valenton qui est une ville un peu plus difficile, je vais me permettre le mot, que Créteil. Donc ça a été encore plus déstabilisant parce que je rentrais à la maison dans ma famille et puis là où je me sentais chez moi et où la culture n'avait pas une place hyper dominante, voyez. Et j'allais tous les matins à Théâtre de Chardin et puis je me disais mais mince, genre j'arrive en seconde et puis on me demande on m'envoie un document comme ça avec 70 bouquins et on me dit il faut que vous connaissiez tous ces livres là. Et je ne les connaissais pas. Je rentrais en seconde, je ne les connaissais pas. Donc c'était hyper frustrant. Et puis je me disais, ce monde est trop grand pour moi. J'ai pas à y être. Et puis, à la fin de ma seconde, j'étais tellement apeurée par ce monde-là auquel je ne pensais pas appartenir, que j'ai décidé de faire une demande à l'académie pour changer d'établissement et pour retrouver un établissement public.
Vous ne vous sentiez pas à votre place.
C'est ça.
Clairement.
Et en arrivant là où ça a été un peu spécial, c'est qu'en arrivant à Gutenberg à Créteil, j'ai passé une année de première assez cool. Et puis ensuite, je me suis rendu compte que finalement, non, je me sentais pas à ma place non plus à Gutenberg. Puis j'ai regardé l'école comme ça et puis je me sentais un peu perdue parce que je me disais, je pense venir d'un endroit, donc côtoyer ce milieu-là. Mais finalement, en fait, je ne viens ni d'ici ni de là-bas. Et où est-ce que je dois être? Où est-ce que je suis légitime d'être finalement? Et de là, ma prof d'histoire géo, Madame Bloquet-Favier, qui m'a attrapée par les cheveux, m'a dit « Vous allez passer le concours Sciences Po, vous allez passer l'atelier tous les mercredis, etc. » Puis moi, j'étais là, je comprenais pas ce que c'était que Sciences Po, je savais même pas ce que c'était que ces grandes écoles-là. J'avais pas réellement de projet d'avenir, je savais juste que j'avais envie de vivre une vie, finalement. Et je suis allée à ces ateliers, et puis de fil en aiguille, on parlait de sujets hyper intéressants, de sujets qui inclusaient toutes les personnes autour de la table, et où je me sentais légitime à prendre la parole.
Mais qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Pourquoi vous êtes finalement auto-censurée?
C'est que finalement, je pense qu'il y a...
Parce que vous n'avez...
Je ne l'ai pas
vous
eu.
Ne... Voilà. Ouais, vous en ne fait, continuez
j'ai
pas. Pas.
Voilà. J'ai réussi à avoir l'admissibilité, puis pendant l'oral d'admission, ça a été un moment très très dur pour moi, parce que je me suis rendu compte que tout le combat que j'avais mené et tout ce que je pensais avoir accompli, donc cette prise de conscience là, du fait que je ne viens ni d'ici ni de là-bas et que j'ai le droit d'être où je veux finalement, donc c'est à moi de conquérir les terres que je veux avoir et d'où la culture, et finalement me dire que face à ces personnes là, je me suis retrouvée au pied du mur. Et j'ai pas cherché à aller plus loin encore. Donc je leur ai dit clairement au juré, je leur ai dit qu'il y avait des gens beaucoup plus intéressants que moi. Et c'est ce qu'il faut pas dire. Donc je me suis rendu compte que... Et puis on m'a regardé comme ça, on m'a dit « Ah, ok ». Donc je suis repartie et je savais pertinemment qu'en sortant d'ici, j'avais raté quelque chose. Mais aujourd'hui, en y réfléchissant, je me dis que non, ça a été une belle expérience. Et ça m'a donné encore plus de hargne, finalement. Et d'où, je pense, l'évolution de l'association, parce que mon meilleur ami Abdelilah a continué, a réussi à avoir le concours, il est aujourd'hui à Sciences Po Paris, et moi je suis à l'UPEC, donc pardon, encore une fois, en banlieue à Créteil. Et puis je connais, enfin je sais que je côtoie ces milieux-là et je suis fière d'y être parce que c'est du terrain.
C'est un tout petit échec qui vous permet d'aller encore plus loin et de créer tout ce curieux. Et nous sommes toujours sur RFI, 7 milliards de voisins. Nous parlons des initiatives citoyennes. Hashtag taxe pas mes mots. C'est le nom d'une campagne 2.0 qui a fait parler d'elle au Bénin. Mots pour mégaoctets, les données d'Internet, mais aussi mots, M-O-T-S. En septembre dernier, un décret du gouvernement imposait de nouvelles taxes sur l'utilisation des réseaux sociaux comme Facebook, WhatsApp et Twitter. Ce décret a été suspendu 3 jours après son entrée en vigueur et pour cause, la mobilisation béninoise a été inédite. Charlie Dupiot a rencontré 2 blogueurs qui ont été très engagés sur le sujet. Awanabi Idrissou, chargé de communication digitale pour une entreprise, et Maurice Tatan, président de l'Association des blogueurs béninois. Ils reviennent pour nous sur cette initiative citoyenne.
Le 24 août 2018, les Béninois ont appris, ont découvert sur les réseaux sociaux que le gouvernement avait pris un décret depuis plusieurs jours pour augmenter les coûts d'accès à certains services sur Internet, notamment les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp en particulier, qui sont des services abondamment utilisés. Beaucoup n'y ont pas cru, y compris moi-même. Et c'est à ce moment-là que les blogueurs, notamment à travers l'association des blogueurs, se sont dit on va pas rester les bras croisés, et certains ont commencé à utiliser des alternatives comme les VPN, qui sont des réseaux privés virtuels.
Pour en fait faire comme si on était dans un autre Internet, pas absolument, l'Internet béninois.
Oui, voilà. Mais ce n'était pas accessible à tout le monde.
Et donc ça a vraiment enflammé la toile.
Et vous qui êtes blogueuse, alors qu'est-ce que vous avez posté à ce sujet? Comment vous êtes engagée?
Alors dès le début, on l'a décrié, on a trouvé que ce n'était pas normal. Et puis il y a eu un vendredi dont la date m'échappe, où une Mylène Flicka, je crois bien, a eu l'idée de faire des photos par tout le monde assis par terre pour une manière d'exprimer notre colère. Mylène Flicka, c'est une blogueuse.
Vous avez pris cette photo-là?
Oui, j'ai pris cette photo-là. Je me rappelle, j'étais au bureau et donc j'ai pris cette photo-là. J'étais assise entre 2 véhicules dans mon bomba. J'aime beaucoup porter ce qui est en pagne. Et un commentaire avec le hashtag #TassePasMesMots ce vendredi-là pour soutenir la campagne.
Vous l'avez posté sur Facebook, cette photo?
Facebook, Instagram, Twitter, il fallait réellement se faire entendre sur tous les réseaux sociaux. Internet permet à beaucoup de personnes de s'exprimer, de travailler. Donc, nous, blogueurs, nous savons combien nous dépensons par mois, par semaine, pour pouvoir nous connecter, faire des recherches, publier un article. Ça nous pompe énormément.
En quoi vous, vous êtes senti concerné? Si vous, vous aviez déjà un Wi-Fi au travail, un Wi-Fi chez vous, en quoi ça vous concernait?
Quand moi, j'ai commencé, j'activais mon forfait sur mon téléphone. Les portables ont une fonctionnalité qui permet de partager avec son ordinateur. Donc, parfois, je faisais 100 fois même. Je partageais juste pour faire une seule chose sur l'ordinateur précise. Je peux faire pour 500 même pour juste publier mon article.
500 mots
à 500 francs CFA.
500 francs CFA, c'est moins d'un euro.
Les forfaits de 100 francs, 200 francs, je sais à mes débuts comment ces forfaits-là m'ont aidé. Je me mets à la place de nos jeunes frères qu'on ne cesse de former. Quand je me mets à la place de ces personnes-là, ça me fait vraiment mal. Parce que si c'était 3-4 ans en arrière que cette décision-là avait été prise, je ne serais pas là en train de discuter avec vous. Alors qu'aujourd'hui, je suis community manager, je suis chargée de communication digitale.
La période la plus faste de cette mobilisation a été le moment où la décision a été mise en application, c'est-à-dire à partir du 18 septembre, et qui a aussi coïncidé avec l'apparition du hashtag TASPAMEMO et qui a été énormément exploité. À la fin de la campagne, on a compté jusqu'à près de 35 000 tweets dans lesquels il y avait le hashtag TASPAMEMO, puisque ce n'était pas uniquement les Béninois, mais aussi beaucoup d'étrangers, beaucoup de blogueurs qui étaient solidaires de notre situation, que ce soit en Afrique francophone, en Afrique anglophone. Et surtout là, les gens avaient un moyen d'action qui était très simple, très facile. Donc, écrire quelque chose sur Facebook, mettre TASPAMEMO, faire une photo, c'était très aisé. Cette mobilisation sociale sur Internet a fait que le gouvernement est revenu sur sa décision et l'a d'abord suspendu.
Certains ont blagué de cette manière-là. Ils ont dit que c'est la première fois qu'on voit les Béninois réunis avec une telle ampleur. On se dit souvent au Bénin qu'on est individualiste et tout, mais cette fois-ci, c'est vraiment rare qu'une même cause réunisse autant de monde.
Est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir une prochaine mobilisation citoyenne sur d'autres sujets? Est-ce que vous pensez que ça a été une première étape pour se mobiliser sur autre chose?
Pourquoi pas, ça pourrait être le climat, surtout que c'est... Si ce n'est pas encore passé, il doit y avoir une grande marche qui va réunir plusieurs organisations pour le climat. Ça pourrait mobiliser aussi autant de monde, petit à petit aussi au Bénin.
Et cette marche pour le climat est justement prévue ce samedi 22 juin au Bénin à Cotonou. Donc reste à savoir si le sujet mobilisera autant que le coût d'accès à Internet. Nous sommes toujours sur RFI dans 7 milliards de voisins et j'aimerais revenir vers vous, Alia Ismaël. Vous parliez d'échecs tout à l'heure, mais finalement d'une vraie réussite. Je voudrais savoir ce que ça vous a apporté de lancer cette association Tous Curieux avec votre meilleur ami.
Je vais revenir un peu sur les quelques semaines qui ont précédé la création de l'association. Donc on était pendant la préparation du concours et puis tous les soirs avec Abdelila, on discutait pendant des heures et des heures et des heures sur on finissait à 16h les cours, on habitait juste à côté et puis on discutait jusqu'à 21h, 22h et 23h de sujets qui nous concernaient vraiment pas. Enfin pour le coup, nous on se sentait pas du tout concernés parce qu'on pensait pas être légitimes. Et puis ces moments-là m'ont apporté tellement parce que j'avais l'impression d'être responsable, j'avais l'impression d'apporter quelque chose sur cette terre. Et puis d'où la création de l'association. Et aujourd'hui, je peux dire que j'en ai tiré beaucoup de choses. J'en ai d'abord tiré une certaine confiance, une certaine légitimité. J'ai pris position parce que l'association s'appelait initialement l'Assemblée des Curieux, donc c'est le nom qu'on donne à l'atelier. Mais aujourd'hui, elle s'appelle Tous Curieux, donc c'est un engagement, c'est un combat qu'on mène tous les jours, donc avec ses élèves.
L'objectif, c'est finalement les aider à développer leur culture générale.
En fait, c'est surtout de leur faire comprendre qu'ils ne sont pas aussi petits qu'ils le pensent et qu'en réalité, ils sont capables de déplacer des montagnes comme je l'ai été. Aujourd'hui, je me retrouve avec vous. Donc sur RFI, c'est quand même une grande victoire pour moi. Et alors que j'aurais jamais pensé.
Et vous êtes légitime et vous êtes sûr de vous et vous êtes même un modèle. Voilà. Bravo.
C'est gentil. Ouais. Mais du coup, c'est ce qu'on essaye réellement de faire comprendre aux jeunes, bon, bah, moi, je peux constater dans mes assemblées de curieux qu'il y a plus de garçons que de filles. Donc, c'est encore un petit problème. Surtout qu'en général, bon, la culture est plus prise par les femmes que par les hommes. Mais ici, la prise de position est davantage prise par les hommes. Donc, pendant nos assemblées de curieux. Donc, on a aussi envie, bah, de faire comprendre qu'aux garçons et aux filles, surtout aux filles, que finalement, on n'est pas plus petite qu'on ne le pense et on est beaucoup plus grande que ça. On est capable de beaucoup de choses.
Je sens que vous êtes en train de monter un engagement en faveur des filles.
J'aimerais beaucoup. C'est l'un de mes... Le projet de Tina me touche beaucoup.
Je savais que ça allait faire des...
La transmission se passe par les femmes dans l'éducation. Donc, une femme instruite, forcément, ça va se propager sur la génération suivante. Et malheureusement, le monde est... c'est l'inverse, puisque surtout tous les enfants qui vont à l'école, il y a 2/3 de garçons et 1/3 de filles. C'est totalement incohérent.
Et surtout qu'on se rend compte qu'en banlieue, moi je l'ai vu aussi à Gutenberg ou même pendant les assemblées de curieux, l'autocensure touche beaucoup plus les femmes. Et je l'ai vécu aussi pendant le concours Sciences Po. Je sentais que pendant l'atelier, on est arrivé à 10 pour préparer
Sciences Po. Parce qu'elles ne sont pas éduquées pour prendre le pouvoir.
Et puis la société ne leur donne pas cette liberté. Parce que même dans des milieux beaucoup plus favorisés, on s'est rendu compte, par exemple, que les femmes osent moins demander une augmentation. Il y a une espèce d'autodénigrement.
Plus la société.
C'est la société qui dicte ça. Mais bon. Et justement, quand les femmes seront toutes instruites, c'est ça, ces lignes-là vont changer.
Vous-même, Tina, vous êtes très engagée par rapport à l'éducation. L'instruction des jeunes filles, pas seulement au Cambodge, ici, en France aussi.
Oui, parce que en France aussi, c'est pas facile du tout. Donc absolument. Mais c'est intéressant quand elle parle quand tu parles de cette histoire de confiance en soi, parce que vous voyez les petites, par exemple du Cambodge, qui viennent des bidonvilles et qui se retrouvent aujourd'hui à l'université, en face d'étudiants qui viennent de la bourgeoisie, ou de bourgeoisie, etc. Alors elles sont dans un foyer et nous on fait exactement ce que vous faites, c'est-à-dire que on leur fait faire du décryptage de journaux télévisés, on leur apprend à prendre la parole,
elles parlent, etc. L'anglais,
le français, le khmer, etc. Ouais. Bon, des petites filles dont les parents sont analphabètes. Et pour qu'elles aient cette confiance en elles-mêmes et qu'elles n'aient pas de complexe quand elles se retrouvent à la fac avec des gamins qui viennent d'un autre milieu et qu'elles osent. Et il y a l'instruction, mais il y a aussi tout, on appelle ça les cours d'ouverture sur le monde et les cours de confiance en soi. C'est extrêmement important. On travaille beaucoup là-dessus.
Pouvoir s'intégrer dans l'environnement. Tout à fait. Je vous propose maintenant d'aller découvrir l'initiative de Mamadou Sakho, qui est footballeur, défenseur de Crystal Palace et international français. Il a été capitaine du PSG, j'ai du mal avec le foot, à l'âge de 17 ans. Mamadou Sakho a fondé l'association AMSAC, qui a pour vocation d'aider les enfants en difficulté. Et il a également créé un orphelinat à Tamba, au Sénégal. Bonjour Mamadou Sakho.
Bonjour.
Bonjour Mamadou. Alors vous êtes cinquième d'une famille de 6 enfants. Vous êtes né, vous avez grandi dans un quartier populaire à Paris. Donc vous êtes issu d'une famille assez modeste. Est-ce que c'est ce qui vous a motivé à vous engager auprès des plus défavorisés?
Forcément. Je pense que mon histoire y est pour beaucoup. Mon enfance. Dans la rue de Paris, comme je veux dire, j'étais un nomade parisien. Donc il a fallu que je vive dans différents quartiers à l'époque, quand j'étais jeune, par faute de moyens. Donc forcément, j'ai grandi avec une mentalité où je me suis dit, redonner, pour moi, ça allait être quelque chose de naturel. Le jour où...
Et quelque chose de primordial dans votre vie. Oui, j'ai lu que vous disiez que très tôt, vous vouliez vous engager pour les autres.
C'est ça, exactement. Parce que, c'est vrai que j'ai connu, j'allais dire, comme je dis souvent, les secours populaires. J'ai connu, j'allais dire, le froid parisien pendant l'été, quand je dormais dans des tentes à l'époque. Donc, forcément, je me suis dit que, j'allais avoir la chance de pouvoir réussir, j'allais redonner. Parce que je savais ce que c'était d'avoir faim, je savais ce que c'était d'avoir froid.
Je suis vraiment désolée, la ligne n'est pas très très claire, mais peut-être prenez un peu plus de distance avec le téléphone. Mais dites-nous, parlez-nous un petit peu de votre projet, de cette création d'orphelinat. Pourquoi le Sénégal? Pourquoi un orphelinat? Et pourquoi les enfants?
Il faut savoir avant tout que j'ai créé mon association AMSAC, qui veut dire Association Mamadou Sakho.
Oui.
Je l'ai créé il y a aujourd'hui 8 ans à peu près. Et puis, justement, ça veut dire que j'agis J'ai un petit peu partout. L'année dernière, j'ai fait une tournée africaine, par exemple. J'ai fait 7 pays africains où j'ai tourné à Côte d'Ivoire, Libéria, Mali, etc. Donc j'ai visité des prisons, des orphelinats, des hôpitaux. Parce que pour moi, c'est très important d'être proche de la jeunesse. Mmh. La jeunesse africaine, pas seulement, puisque j'agis aussi en France, en Angleterre, etc. Mmh. Donc pour moi, c'est quelque chose d'important. Ensuite, c'est vrai que je n'ai pas voulu au début que les gens m'aident, ou participent, j'allais dire, à mon association. J'étais fier de le faire avec, je dis toujours, avec ma petite force.
Tout
et à force d'agir, il y a pas mal de gens qui veulent aussi participer, me dire.
Donc aujourd'hui, vous êtes entouré.
Exactement. Donc j'ai pensé à créer justement ce projet, qui est un centre de formation sportif, affilié à un orphelinat et un centre de formation professionnelle. Voilà. Et donc, c'est vrai que le projet prend bien, prend forme chaque année. On avance, les travaux continuent petit à petit. On monte les murs de cet orphelinat qui me tient un temps à cœur. On habite de Tambacounda qui est au Sénégal. Mm-hmm. Pourquoi Tambacounda? Parce que c'est la ville d'où mes parents viennent, où mon papa est enterré aujourd'hui.
Donc c'était un hommage à votre papa. Mamadou Sakho, mille merci d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui. Nous vous souhaitons bien du courage et nous suivrons évidemment cette initiative positive et cette initiative citoyenne ici à RFI. Merci et à très bientôt. J'imagine que c'est vraiment très inspirant, une personnalité connue, une personnalité qui a réussi, qui revienne comme ça sur les terres de ses parents, c'est important. Et puis surtout son action dépasse aussi les frontières puisqu'il fait beaucoup de choses en France. Un petit mot, je suis vraiment désolée, hein, on manque toujours de temps pour conclure. Peut-être, Tina, c'est important pour vous de parler de l'instruction des jeunes filles en France, au Cambodge, et puis surtout de ce changement de vie. Enfin, j'imagine que ce n'est pas donné à tout le monde de passer de la télé ou des médias à une vie peut-être beaucoup, loin des projecteurs.
C'est sûr. D'ailleurs, c'est ce que je raconte dans ce livre. C'est pas un plaidoyer pour l'association. Parce que l'association, j'en parle souvent dans des émissions, mais j'ai voulu vraiment raconter deux choses. D'abord, cette puissance de l'amour maternel. C'est vrai que j'ai un tropisme avec les enfants, j'avais déjà 4 enfants. Quand je dis maternel, ça pourrait être paternel. J'ai essayé de comprendre comment j'avais été submergée à ce point et comment ça m'avait donné une telle force pratiquement de soulever des montagnes.
Mais vous n'avez toujours pas compris pourquoi, finalement.
J'ai pas toujours, oui.
C'est juste arrivé.
J'essaie de comprendre dans mon enfance. Si, il y a des choses, je pense qu'il y a une révolte, une indignation, parler d'indignation, depuis toute petite sur la souffrance des enfants qui m'empêche de vivre.
Et puis l'adoption était aussi,
m'engager là-dedans.
Existait déjà dans votre enfance.
Oui, en plus.
Cette histoire dans la voiture avec votre papa.
Absolument, avec mon père, etc. Voilà. Donc, ça raconte un petit peu les prémices de l'engagement. Et puis, le changement de vie, bon, de toute façon, je pense qu'on vit de plus en plus longtemps et c'est très intéressant d'avoir
ça
des vies différentes.
Ça ne vous manque pas?
Ah, pas du tout.
Oh là l'antenne,
là. Ah, pas du tout.
Les lumières.
Ah, pas du tout.
Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, donc vous avez été épargné.
C'est tellement passionnant d'aller au Cambodge, de s'occuper de gamins, de les voir réussir.
De changer leur vie.
De changer leur vie, de les voir heureuses. Il y en a qui vont être ingénieurs, elles vont faire bouger leur pays. Et puis la lumière du Cambodge, elle vaut la lumière des projecteurs, vraiment.
Merci à vous toutes, mesdames. Merci de nous avoir inspirées ce matin. Merci à vous, Paloma Moritz. Merci, Alia Ismaël.
Merci
à Tina Kiefer et à Mamadou Sakho. Merci d'être venus nous voir. Merci à toute l'équipe de 7 milliards de voisins. Ségrid Azeroual, Romain Dubrac, Cécile Lavallo, Delphine de Danius, Raphaël Lazizi et notre formidable Emmanuel Bastide. Demain, nouveau rendez-vous de 7 milliards. D'où je viens, pourquoi et comment comprendre ses racines. Donc n'oubliez pas que vous pouvez écouter et réécouter notre émission sur notre site et sur l'appli RFI Pure Radio. Bonne journée les voisins et les voisines.